Chapitre 33. Je prépare l'ouverture de la bibliothèque avant l'arrivée d'Oshima. Je passe l'aspirateur dans toutes les salles, essuie soigneusement les vitres et le vitrail du palier, nettoie les toilettes, époussette toutes les chaises et les tables avec un chiffon. Je vaporise un spray sur la rampe de l'escalier pour la faire briller. Je balaie le jardin, mets en marche l'air conditionné dans la salle de lecture, l'humidificateur dans les réserves de livres. Je prépare du café, taille les crayons. L'atmosphère de la bibliothèque déserte, tôt le matin, me comble de bonheur. À l'idée de tous les mots, de tous les mondes imaginaires qui reposent paisiblement dans ces pièces, je déborde du désir de préserver la beauté et l'harmonie du lieu. J'interromps de temps en temps ma tâche pour contempler les livres silencieux alignés dans les rayons, et je tends la main pour toucher leurs tranches. À 10h30, comme d'habitude, j'entends la Mazda Miata d'Oshima entrer dans le parking en pétaradant. Oshima apparaît, l'air un peu ensommeillé, et nous bavardons en attendant l'heure d'ouverture. « J'aimerais bien sortir un peu vers 11h, si c'est possible, » lui dis-je.
« Pour faire quoi ?»«
Je voudrais aller m'entraîner au gymnase. » Ce n'est pas la seule raison, bien sûr. Je veux surtout éviter de croiser Mademoiselle Saeki quand elle arrivera pour prendre son service vers midi. J'ai besoin de me retrouver un peu avant de la revoir. Oshima me regarde, ne dit rien le temps d'une inspiration, puis acquiesce d'un signe de tête.
« Entendu. Mais fais attention. Je ne veux pas jouer les mères poules. Or, dans ta situation, on n'est jamais trop prudent. »«
Je serai prudent, » dis-je. Mon sac à l'épaule, je monte dans le train. Une fois à Takamatsu, je prends un bus en direction du gymnase. Je me change dans les vestiaires, puis entame ma série d'exercices de musculation, avec dans les écouteurs la musique de Prince à plein volume. Au début, je sens que mon corps est un peu rouillé, mais je m'en sors bien quand même. Réaction normale, les muscles protestent en gémissant contre le fardeau supplémentaire qui leur est imposé. Tout en écoutant Little Red Corvette, j'inspire, retiens mon souffle, puis expire. Régulièrement, je répète les mêmes gestes. Inspiration, pause, expiration. Inspiration, pause, expiration. Je fais souffrir mes muscles jusqu'à la limite de leur capacité. Je suis trempé de sueur. Mon t-shirt lourd et humide me colle à la peau. Je m'interromps plusieurs fois pour aller à la fontaine à eau boire quelques gobelets. Je passe d'une machine à l'autre dans l'ordre habituel. Et pendant tout ce temps, je ne pense qu'à Mademoiselle Saeki, à notre nuit d'amour. J'essaie de faire le vide dans ma tête, mais ce n'est pas facile. Je me concentre sur le travail de mes muscles, m'absorbe dans la série de gestes réguliers. Les machines habituelles, les poids habituels, le nombre d'exercices habituels. Prince chante « Sexy Motherfucker ». Le bout de mon pénis est un peu irrité. Cela m'a fait mal tout à l'heure lorsque j'ai uriné. Le gland est rouge. La peau de mon prépuce est encore toute fraîche et sensible. Entre les fantasmes sexuels qui défilent dans ma tête, les citations venues de diverses lectures qui fusent, et la voix suave de Prince qui accompagne le tout, j'ai l'impression que mon cerveau va exploser. Je me douche, enfile des sous-vêtements propres, me rhabille et prends le bus en direction de la gare. Je me sens affamé et entre dans la première gargote que je vois devant la gare pour commander un plat. Pendant que je mange, je me rends compte qu'il s'agit du restaurant où je suis allé le jour de mon arrivée à Takamatsu. Depuis combien de temps suis-je là? Cela fait un peu plus d'une semaine que je vis à la bibliothèque Komura. Je dois donc être dans le Shikoku depuis 3 semaines environ. Il faudrait que je sorte mon agenda de mon sac pour connaître exactement la date de mon arrivée. Après le repas, je bois un thé en regardant la foule pressée s'engouffrer dans la gare ou en sortir. Tous ces gens ont un endroit où aller. Moi aussi, je pourrais me mêler à eux prendre un train et m'en aller. Je pourrais tout laisser tomber ici et partir vers une ville inconnue pour tout recommencer à zéro. Comme si je tournais la page d'un carnet. Je pourrais aller à Hiroshima ou à Fukuoka. Rien ne m'oblige à rester ici. Je suis libre, 100% libre. Mon sac à dos contient tout ce dont j'ai besoin, des vêtements de rechange, mes affaires de toilette. Et je n'ai encore pratiquement pas touché à l'argent pris dans le bureau de mon père. Mais je sais bien que je ne peux plus partir nulle part.
« Tu sais bien que tu ne peux plus partir nulle part, » dit le garçon nommé Corbeau. « Tu as fait l'amour avec Mademoiselle Saeki. Tu as éjaculé à plusieurs reprises en elle. Chaque fois, elle t'a accueilli. Ton pénis en est encore cuisant. Il se rappelle le contact des parois de son vagin. Un endroit fait pour toi. Tu penses aussi à la bibliothèque, aux livres silencieusement alignés sur les étagères dans le calme du matin. Tu penses à Oshima, à ta chambre, à la jeune fille de 15 ans qui vient la nuit regarder Kafka au bord de la mer. Et tu secoues la tête. Non, tu ne peux plus partir d'ici. Tu n'es pas libre. Mais as-tu vraiment envie de l'être ?
Je croise plusieurs fois des policiers qui patrouillent dans la gare, mais ils ne me jettent pas un regard. La gare est pleine d'adolescents bronzés chargés de sacs à dos. Je suis juste l'un d'entre eux. Je me fonds dans le paysage. Aucune raison d'être nerveux. Il suffit que je me comporte avec naturel et personne ne me prête la moindre attention. Je monte dans le petit train à deux wagons qui me ramène vers la bibliothèque.
« Rebonjour !» dit Oshima.
Puis il regarde mon sac à dos avec stupéfaction.
« Eh ben dis donc, tu te promènes toujours avec autant de bagages ? Comme Charlie Brown dans la bande dessinée qui emporte partout sa couverture. »
Je fais chauffer de l'eau, prépare un thé. Comme toujours, Oshima fait tourner un long crayon bien taillé entre ses doigts. Je me demande ce qu'il en fait quand ils sont devenus trop courts.
« Ce sac à dos est le symbole de ta liberté, non ? »
dit-il. Peut-être.
Posséder un objet qui symbolise sa liberté peut rendre un homme plus heureux que la liberté elle-même.
Parfois.
Parfois ?
Répète-t-il.
S'il existait un concours des réponses les plus courtes, tu le gagnerais haut la main.
Possible, dis-je.
Possible,
répète-t-il d'un air écœuré. Tu sais, Kafka, la plupart des gens dans le monde ne veulent pas vraiment être libres. Ils croient seulement le vouloir. Pure illusion. Si on leur donnait vraiment la liberté qu'ils réclament, ils seraient bien embêtés. Souviens-toi de ça. En fait, les gens aiment leurs entraves.
Et vous, Oshima-san ?
Oui. Moi aussi. J'aime mes entraves. Jusqu'à un certain point, naturellement. Jean-Jacques Rousseau disait que la civilisation naît quand les gens commencent à construire des barrières. Une remarque très perspicace. C'est vrai. Toutes les civilisations sont le produit d'une restriction de la liberté que l'on a délimitée avec des barrières. Mis à part les aborigènes d'Australie qui ont maintenu jusqu'au XVIIe siècle une civilisation sans barrières. C'était un peuple profondément libre. Ils allaient où ils voulaient, quand ils voulaient, et faisaient ce qu'ils voulaient. Leur vie était littéralement une marche errante. Et cette errance était une métaphore parfaite de leur vie. Et puis, les Anglais sont arrivés et ont élevé des clôtures pour enfermer le bétail. Comme les aborigènes n'ont pas compris le sens de cette démarche, ils ont été considérés comme dangereux et antisociaux et ont été refoulés vers la brousse. Voilà pourquoi il faut que tu fasses attention, Kafka Tamura. Finalement, dans ce monde, ce sont ceux qui dressent les plus hautes barrières qui survivent le plus sûrement. Et si tu nies ce principe, tu seras refoulé vers la brousse.
Je retourne dans ma chambre déposer mes affaires. Ensuite, je prépare du café frais dans le coin cuisine et en monte comme d'habitude une tasse à Mademoiselle Saeki. Je gravis précautionneusement les marches une à une, tenant le plateau en métal à deux mains. Le vieux parquet craque sous mes pas. Je traverse les flaques de lumière aux couleurs vives que le vitrail projette sur le sol du palier. Mademoiselle Saïki est à son bureau, en train d'écrire. Je pose la tasse de café devant elle. Elle lève la tête et me fait signe de m'asseoir sur la chaise. Elle porte un chemisier café au lait sur un t-shirt noir. Sa frange est retenue par une barrette et elle a de petites boucles d'oreilles. Pendant un moment, elle ne dit rien. Elle regarde fixement la feuille sur laquelle elle vient d'écrire. Rien dans son expression ne diffère des autres jours. Elle referme le capuchon de son stylo plume, le pose sur sa feuille. Puis elle écarte ses mains, vérifie que ses doigts ne sont pas tachés d'encre. La lumière de ce dimanche après-midi ensoleillé pénètre par la fenêtre. On entend des gens parler dans le jardin. « Oshima-san m'a dit que tu étais allé au gymnase ?» dit-elle en me regardant. « C'est exact. Quel genre d'exercice fais-tu là-bas ? » « De la musculation avec des machines. » « C'est tout ?»« Oui. » « Un sport plutôt solitaire, non ?» Je hoche la tête. « Tu veux devenir fort, c'est ça ?»«
Il faut être fort pour survivre, spécialement dans mon cas. »
« Parce que tu es seul au monde ?»«
Personne ne viendra à mon aide. En tout cas, personne ne m'a aidé jusqu'ici. Il faut que je m'en sorte par moi-même. Donc, il faut que je sois fort, comme un corbeau égaré. C'est pour ça que j'ai choisi le nom de Kafka. Cela signifie corbeau en tchèque, vous savez ?»«
Fait-elle d'un air impressionné. « Alors, tu es un corbeau solitaire ?»
C'est exact.
C'est exact, dit le garçon nommé Corbeau.
Mais il y a des limites à ce genre de vie, tu ne crois pas ? Dit Mademoiselle Saïki. Le mur que tu te construis avec ta force ne suffira pas à te protéger. Il y aura toujours quelqu'un de plus fort pour le démolir. C'est le principe même de la force, non ?
Parce que la force devient la seule morale ?
Mademoiselle Saïki sourit. Tu comprends vite, n'est-ce pas ?
La force que je recherche ne fonctionne pas selon ce principe-là. Ce n'est pas le plus fort qui gagne. Je ne veux pas élever un mur pour repousser les puissances extérieures. Moi, je recherche une force capable d'absorber les pressions de l'extérieur et qui me permette de les supporter.
C'est peut-être la plus difficile à acquérir.
Je sais.
Le sourire de Mademoiselle Saïki s'élargit. Tu sais tout, on dirait. Je secoue la tête.
Non, je n'ai que 15 ans et il y a un tas de choses que j'ignore, même des choses que je devrais savoir. Par exemple, je ne sais rien de vous.
Elle soulève sa tasse et boit une gorgée de café. Il n'y a rien à savoir à mon sujet, en fait. Ou plutôt, il n'y a rien de moi que tu doives savoir.
Vous vous souvenez de mon hypothèse ?
Bien sûr, mais c'est ton hypothèse. Pas la mienne. Moi, je n'y ai aucune responsabilité, n'est-ce pas ?
Exactement. C'est celui qui a établi l'hypothèse qui doit prouver qu'elle est vraie, dis-je. À ce propos, j'ai une question.
Oui ?
Autrefois, vous avez écrit un livre sur des gens frappés par la foudre. Il a bien été publié, n'est-ce pas ?
Oui.
Est-ce qu'on le trouve encore aujourd'hui ?
Elle secoue la tête. Il est sorti en très peu d'exemplaires et il est épuisé depuis longtemps. Je suppose que ce qui n'a pas été vendu a été passé au pilon. Même moi, je n'en ai plus un seul en ma possession. Je crois te l'avoir déjà dit, mais un livre sur des témoignages de foudroyés, cela n'intéressait personne.
Pourquoi est-ce que cela vous intéressait, vous ?
Je ne sais pas. Peut-être que je voyais un symbole là-dedans. Ou peut-être que je voulais juste avoir un but. Quelque chose pour m'occuper l'esprit.
J'ai oublié les circonstances exactes qui m'ont donné l'idée d'écrire ce livre. En tout cas, j'ai eu cette idée et j'ai commencé à faire des recherches. J'écrivais à l'époque et je n'avais pas de soucis d'argent. J'avais du temps et je pouvais faire ce qui me plaisait. Le sujet lui-même était très intéressant, tu sais. Cela m'a fait rencontrer un tas de gens. J'ai entendu toutes leurs histoires. Sans ce projet, je me serais progressivement éloigné de la réalité et j'aurais fini complètement isolé, enfermé en moi-même.
Quand mon père était jeune, il travaillait comme caddie dans un club de golf et il a été frappé par la foudre. Il s'en est sorti de justesse. La personne qui se trouvait avec lui est morte.
Beaucoup de gens meurent frappés par la foudre sur des terrains de golf. La foudre aime bien ces larges étendues plates, sans aucun endroit où s'abriter.
Ton père s'appelait Tamura, comme toi, n'est-ce pas?
Oui, et je pense que vous avez à peu près le même âge que lui.
Mademoiselle Saeki secoue la tête.
Ce nom ne me dit rien.
Aucune des personnes que j'ai interviewées ne s'appelait Tamura.
Je me tais. C'est une partie de ton hypothèse? Tu penses que ton père et moi avons pu nous rencontrer lors de mon enquête pour ce livre et que tu serais né de cette rencontre?
Oui.
Voilà qui met fin à ton hypothèse, puisque dans la réalité, il ne s'est rien passé de tel. Ta théorie ne tient plus.
Ce n'est pas sûr.
Ce n'est pas sûr?
Je ne crois pas forcément tout ce que vous me dites.
Pourquoi?
Eh bien, par exemple, vous avez répondu tout de suite, sans réfléchir, que vous n'aviez interrogé personne du nom de Tamura. Mais c'était il y a plus de 20 ans, et vous avez interviewé beaucoup de gens. Alors comment pouvez-vous en être si sûr?
Mademoiselle Saeki secoue la tête, boit une autre gorgée de café. Un pâle sourire flotte sur ses lèvres.
« Tu sais, Kafka, je... »
commence-t-elle, puis elle se tait. Elle cherche ses mots. J'attends en silence qu'elle les trouve.
« Je sens que les choses commencent à changer autour de moi, » poursuit-elle.
« Quelles choses ? » ?»«
Je ne sais pas comment le dire, mais je le sais. »
« La pression de l'air ? » Les bruits et leurs échos, les reflets de la lumière, les mouvements des gens autour de moi, le temps qui s'écoule, tout change peu à peu. De minuscules changements, comme des gouttes qui se rassemblent pour former un courant.
Elle prend son stylo Mont Blanc dans sa main, le contemple puis le repose. Ensuite, elle me regarde bien en face.
Peut-être que ce qui s'est passé cette nuit avec toi, dans ta chambre, fait partie de ce courant. Je ne sais pas si c'était juste ou non, mais sur le moment, j'avais décidé de ne pas chercher à juger les choses à tout prix. Je me disais que, si ce courant existait vraiment, je voulais me laisser porter vers le lieu où il m'entraînait.
Je peux vous dire ce que je pense de vous ?
Bien sûr.
À mon avis, vous essayez de rattraper le temps perdu.
Elle réfléchit un moment.
Peut-être,
dit-elle.
Mais comment le sais-tu?
Parce que je fais la même chose.
Rattraper le temps perdu?
Oui. Beaucoup de choses m'ont été volées depuis mon enfance. Beaucoup de choses importantes. Il faut que je les récupère maintenant, sans plus tarder.
Pour pouvoir continuer à vivre ?
Je hoche la tête.
C'est une nécessité pour moi. Tout le monde a besoin d'un lieu où revenir. Et il est encore temps.
Peut-être.
Pour vous comme pour moi.
Elle ferme les yeux, pose ses mains sur la table, les doigts croisés. Puis elle soulève ses paupières avec une sorte de résignation et dit
« Qui es-tu? Pourquoi comprends-tu si bien tant de choses ?»
Et tu lui réponds
Qui je suis ? Vous devriez le savoir, mademoiselle Saiki. Je suis Kafka sur le rivage. Je suis votre amant et je suis votre fils. Je suis le garçon nommé Corbeau. Vous et moi, nous ne sommes plus libres désormais. Nous sommes au cœur d'un grand tourbillon. Nous sommes entraînés hors du temps. Nous avons été frappés par la foudre, une foudre invisible et silencieuse. Cette nuit-là, vous faites de nouveau l'amour. Tu entends qu'en elle le vide se comble. Cela fait un bruit léger, comme le sable fin du rivage qui s'effondre sous la lumière de la lune. Tu retiens ton souffle et tu tends l'oreille pour mieux percevoir ce bruit. Tu es à l'intérieur de ton hypothèse. Tu es à l'extérieur de ton hypothèse. Dedans. Dehors. Dedans. Dehors. Inspiration, pause, expiration. Inspiration, pause, expiration. Prince continue à chanter sans fin dans ta tête de sa voix de mollusque. La lune se lève, la marée monte. L'eau de l'océan s'écoule vers les fleuves. Les branches du cornouiller s'agitent nerveusement derrière la fenêtre. Tu la serres contre toi. Elle enfouit son visage dans ta poitrine. Tu sens son souffle tiède sur ton torse nu. Elle caresse tes muscles, un à un. Puis elle lèche tendrement ton gland enflammé, comme pour le soigner. Tu jouis à nouveau, dans sa bouche. Elle avale tout, tel un liquide précieux. Tu embrasses son sexe, le touches partout du bout de ta langue. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu deviens autre chose. Tu es ailleurs. Il n'y a rien de moi que tu aies besoin de savoir, dit-elle. Vous vous serrez l'un contre l'autre jusqu'à l'aube du lundi, tendant l'oreille au temps qui passe.